Alors, sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons inviter Papa Abel qui va s'éteindre debout. Pendant ce temps, nous allons l'accueillir par nos acclamations et il va prier pour le message.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour l'occasion que tu nous donnes une fois de plus d'être à tes pieds pour écouter ta parole, être enseigné par toi et être transformé par toi. Parce que lorsque tu nous invites, Seigneur, c'est parce que tu as un agenda pour chacun d'entre nous. Et nous prions, Seigneur, mon Dieu, cet agenda s'accomplisse et que personne ne quitte de ce lieu tel qu'il est entré. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et merci au leadership du MJC pour la confiance qui m'est renouvelée pour communiquer la parole de Dieu ce midi. Il m'a été demandé de partager la parole autour du thème « Transforme ». Et sans tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire trois passages. Le premier se trouve dans Ésaïe chapitre 45, le verset 9. Ésaïe 49, le verset 9. Le deuxième se trouve dans Jérémie chapitre 1, le verset 4 et 5. Et le troisième se trouve dans Romains 12, Romains chapitre 12, le verset 1 à 3. Je commence avec Ésaïe chapitre 45. Le verset 9. Quel malheur pour l'homme qui se dispute avec celui qui l'a fait. L'être humain est comme un plat de terre parmi d'autres. Est-ce que l'argile dit à celui qui la modèle, qu'est-ce que tu fais? Ton plat ne vaut rien. J'ai lu dans la version Parole de vie 2017. Jérémie chapitre 1 verset 4. À 5. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Verset 2, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes. Mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Parole du Seigneur. Transforme. J'ai assisté à une cérémonie d'officialisation de fiançailles il y a quelques années. La cérémonie a bien commencé et la fiancée avait pris le soin d'inviter quelqu'un pour la maquiller. Autour de la fiancée, il y avait de nombreuses femmes, beaucoup de femmes. Et à un moment donné, la discussion est devenue houleuse sur le choix du maquillage. Quel est le maquillage qu'il fallait appliquer? Chacune avait son opinion. Alors, en fin de compte, Quelqu'un a réussi à s'imposer. Il faut que le maquillage soit comme ceci. On l'a maquillé la fiancée. Et comme vous le savez, pendant la cérémonie de fiançailles, il arrive un moment où on doit faire défiler les filles devant le fiancé et demander au fiancé d'identifier celle que vous êtes venu épouser. Alors le fiancé, le moment est arrivé, on a commencé, on a invité toutes les filles qu'il y avait là dans la maison. Passez devant, le fiancé va reconnaître celle qu'il est venu épouser. Alors les filles se sont présentées et on a posé la question au fiancé, laquelle es-tu venu épouser? Problème, le fiancé s'est tu. La fiancée était parmi ces filles-là. Le fiancé a hésité. Il a eu du mal à reconnaître sa fiancée. Pourquoi? La fiancée était tellement maquillée qu'elle n'était plus reconnaissable. Ma sœur, toi qui te prépares à te marier, ne deviens pas tellement belle au point que celui qui t'a aimé ne te reconnaît plus. Parce qu'il est possible de se maquiller au point que même ton identité change. Au point que celui qui t'a aimé ne retrouve pas ce qu'il a aimé en toi. Et vous savez, dans notre marche chrétienne, beaucoup d'enfants de Dieu, ils disent qu'ils se préparent à la rencontre du Messie. Mais à l'arrivée du Messie, lorsque le Seigneur reviendra, il y en a à qui le Seigneur dira, « Moi, je ne te reconnais pas. » Parce que tu as pris une forme, tu as tellement changé, tu t'es tellement maquillé que moi qui t'ai aimé, je ne te reconnais plus. Alléluia. La première chose que j'aimerais nous partager dans ce que j'ai lu comme texte dans Romains, Jérémie, les trois textes que nous avons lus, la première chose que je tire de ces textes, c'est que Dieu connaît la forme que nous devons avoir. Il dit dans sa parole, c'est ce qu'il dit à Jérémie, il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, avant que Jérémie ne prenne forme dans le sein de sa mère, il y a la forme que Dieu savait que Jérémie devait avoir. Et Dieu dit, je te connaissais. Peu importe ce que tu es devenu après, parce que dans la suite, Jérémie va se plaindre, il va dire, voilà, je ne sais pas parler, je suis petit. Il va donner toutes sortes d'excuses. Mais Dieu lui rappelle, il dit, avant que tu ne saches que tu ne sais pas parler, avant que tu ne réalises que tu es petit, moi, je te connaissais tel que tu es, dans mon esprit. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te connaît. Il connaît la forme que tu dois avoir. Et la forme que tu dois avoir, selon Dieu, c'est la forme que tu as ou que tu dois avoir, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et la forme que Dieu sait que tu dois avoir, ce n'est pas la forme que tu as maintenant. Ce que Dieu sait que tu dois être, ce n'est pas ce que tu es maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce que physiquement parlant, la forme que tu as maintenant sur le plan physique, ce corps que tu as maintenant est en train de se déprécier avec le temps. N'est-ce pas? Ton corps est en train de vieillir. Et au final, un jour, même ceux qui t'ont aimé de tout leur cœur, quand ce corps sera sans vie, ils iront le déposer loin, loin, loin. Et ils ne voudront même pas garder ce corps-là à côté d'eux. Ce corps-là que tu as, même si tu le soignes comment, même si tu l'habilles comment, importe ce que tu fais de ce corps-là n'héritera pas le royaume des cieux. Alléluia. J'espère que nous le savons. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre soin de notre corps. Mais nous devons savoir que ce corps que nous avons n'héritera pas le royaume des cieux. Lorsque le Seigneur reviendra nous chercher, la Bible dit que nous serons transformés. Nous allons hériter un nouveau corps qui est incorruptible. C'est ce corps-là que nous aurons. C'est le corps que Dieu a imaginé pour nous. Ce n'est pas ce corps ici que j'ai. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel aussi, la forme que nous avons actuellement, ce n'est pas la forme que Dieu sait que nous devons avoir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus de transformation intérieure. La Bible le dit, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. L'apôtre Paul dit que notre visage à nous tous est sans voile et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Et il dit, le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Alléluia. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Donc le Seigneur qui nous connaît, le Seigneur qui nous connaît, il est en train de nous transformer de gloire en gloire. Alléluia. Dans certaines versions, c'est comme ça que c'est écrit. Il nous transforme de gloire en gloire. Mais il s'agit là, Paul est en train de parler d'une transformation intérieure. Donc la partie immatérielle de nous. Ce n'est pas le corps physique, mais c'est notre esprit, notre âme. Il dit que le Seigneur est en train de nous transformer de gloire en gloire. Donc ça veut dire que là où nous sommes maintenant, là où je suis dans ma marche avec le Seigneur, là où je suis spirituellement, ce n'est pas là la destination. Je suis appelé à revêtir une gloire plus grande, plus éclatante que celle que j'ai actuellement. La forme que nous avons, ce n'est pas la forme que Dieu sait que nous devons avoir, ce n'est pas la forme que nous avons maintenant. Ce n'est pas non plus la forme que le monde autour de nous veut que nous puissions avoir. Voyez, autour de nous, nous avons des amis, nous avons des collègues, nous avons des voisins, nous avons des parents. Parfois même, nous avons des leaders. Ils veulent nous voir d'une certaine manière. Ils veulent nous voir apparaître d'une certaine manière. Mais ce n'est pas nécessairement ça. La forme que nous sommes censés avoir, c'est la forme que Dieu a prévue pour nous. Dans son plan, dans son agenda. Alléluia. Parce que Dieu a un agenda pour tout ce qu'il fait. Dieu ne fait pas les choses pour le plaisir de le faire. Lorsque vous regardez la nature, vous allez constater que toute chose a sa place. Alléluia. Oui, toute chose a sa place. Rien n'est dans la nature au hasard. Les astronautes le comprennent probablement mieux que nous. Parce que les astronautes savent que, vous voyez la manière dont la Terre tourne autour du Soleil. OK? La manière dont la Terre tourne autour du Soleil. En fait, tout dans l'espace est mouvement. Il n'y a rien qui est fixe. Oui. Il n'y a pas que les astres qui tournent, même les galaxies aussi tournent. Donc, les astrophysiciens disent même que l'univers aussi est en train de tourner. Donc, tout est en mouvement. Alors, les astronautes savent que, et les astrophysiciens savent que, la trajectoire là, de la Terre autour du Soleil, tout est millimétré. Donc, il y a un équilibre qui doit être maintenu pour qu'il y ait la vie ici sur la Terre. Si seulement il y a un décalage, même d'un milliseconde, tout peut basculer. Tout va basculer. Donc, l'équilibre ne tient pratiquement à très peu, si bien que ceux qui sont sincères disent que ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que Dieu a fait a un but précis. Tel que tu es, Dieu t'a fait avec un agenda. La vie n'est pas un jeu de hasard. Alléluia. Dieu n'est pas en train de jouer à pile ou face avec ta vie. Non. Il n'est pas en train de faire essai et erreur. Non. Il connaît parfaitement ce qu'il a fait de toi. Il sait ce qu'il a imaginé que tu dois être. Et il sait là où tu dois être. Alléluia. La grande question, est-ce que toi tu le sais? Dans Ésaïe 45, verset 9, la parole de Dieu nous montre que Dieu est comme un potier. Okay? Un potier, c'est celui qui fabrique les pots, à partir de l'argile. Donc Dieu est un potier et c'est lui qui donne à l'argile la forme. Il modèle l'argile. Et nous sommes comme l'argile entre les mains de Dieu. Si vous arrivez dans une poterie, vous allez constater qu'il y a plusieurs pots d'argile et tous ces pots ne se ressemblent pas forcément, n'est-ce pas? Chaque pot a sa taille, chaque pot a sa forme, chaque pot a une certaine décoration particulière et tout dépend du fabricant, du potier. Alors, lorsque vous arrivez dans la maison du potier, vous allez trouver qu'il y a de l'argile qu'il est en train de travailler, mais vous ne pouvez jamais savoir quelle est la forme que l'argile aura en regardant les autres pots, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas savoir parce que chaque pot a sa forme, chaque pot a sa taille, chaque pot a ses motifs décoratifs, ainsi de suite. Donc le seul moyen pour vous de savoir quelle est la forme finale de l'argile, le seul moyen de le savoir, c'est que le potier doit vous le révéler. Vous devez entrer dans sa tête, dans son imagination, pour savoir quelle est la forme qu'aura l'argile à la fin de son ouvrage. Mais si vous regardez les autres pots, vous dites, ah, comme il a fait ce pot de cette manière, donc probablement, cette argile va aussi ressembler à ça. Vous allez toujours vous tromper. Alléluia. Parce que le potier est un artiste. À chaque tour, à chaque ouvrage, il amène une touche nouvelle. Alléluia. Mon épouse qui est architecte m'a dit que, en tout cas dans leur métier, ce n'est pas autorisé pour un architecte de reproduire la même maison pour des clients. Non, ce n'est pas autorisé. Vous pouvez arriver dans la maison de quelqu'un, vous aimez ça, et puis vous allez voir l'architecte. Moi aussi, faites-moi exactement cette maison-là. L'architecte va vous dire non. Ce n'est pas autorisé. Alléluia. Oui. Si les hommes ne font pas ça, et alors Dieu? Parce que Dieu, il est le créateur. Chaque fois qu'il fait quelque chose, il peut encore faire une nouvelle chose. Alléluia. Même lorsqu'il parle de ses bontés, là, la Bible dit dans Lamentations chapitre 3 que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donc, si tu as senti que Dieu est bon dimanche, ce que tu as senti dimanche, ce n'est pas ce que tu vas sentir lundi. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. La bonté de Dieu à laquelle tu as goûté en 2023, ce n'est pas ça que Dieu prévoit pour toi en 2024. Tu auras de nouvelles sensations. Alléluia. Je parle des sensations parce que c'est la Bible qui dit « Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. » Alléluia. Donc, on doit sentir ça. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est forcément quelque chose de différent de ce que tu es en train de voir dans la vie de ta voisine. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas deviner ce que sera la forme finale de l'ouvrage du potier en contemplant les autres œuvres qu'il a déjà réalisées. Ce n'est pas possible. Et de la même manière, vous ne pouvez pas deviner la forme finale que moi j'aurai en regardant les autres prédicateurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que ce que Dieu est en train de faire de moi, c'est unique. Dis à quelqu'un unique. Unique. Particulier. Exquisite. Original. Voilà. Le français est riche de synonymes. Alors, comme vous ne pouvez pas savoir la forme que vous aurez en regardant le voisin ou en regardant les autres, par conséquent, vous devez chercher Dieu. Parce que Dieu doit se révéler à vous. C'est le seul moyen de savoir. Bien-aimés, c'est pour cette raison-là que nous cherchons Dieu. Nous le cherchons pour avoir la révélation de ce que nous devons devenir, conformément, pas conformément à ce que nous avons déjà vu, mais conformément à ce que lui, il a conçu, à la manière dont il nous a imaginés. Alléluia. C'est pour cette raison que nous cherchons Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Bon, j'ai appris que tout le monde est au courant. Que le dimanche prochain, il y a des gens qui vont se retirer de la ville de Goma. Ils vont aller à un endroit que je n'avais jamais entendu avant. Ils disent que ça s'appelle Mouresse. Ils veulent aller chercher Dieu. Ils veulent se retirer. C'est ça? Oui. Alors, tu peux entendre ça, te demander, mais comment quelqu'un peut quitter Goma, aller jusqu'à Mouresse? Est-ce que Dieu n'est pas à Goma? Oui. C'est ça, quand on cherche Dieu, on prend parfois des décisions qui peuvent paraître bizarres. Ça peut paraître bizarre. Mais le souci, c'est qu'ils veulent probablement se retirer. Ils veulent entrer dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a vraiment conçu pour moi? C'est quoi? C'est pour ça que les hommes de Dieu se retiraient. Même Jésus s'est retiré. Vous imaginez? Ce Jésus qui a dit devant la tombe de Lazare, il a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. » Ah, quelqu'un que Dieu exauce toujours. Mais il se retire pour aller chercher Dieu. Mais Dieu l'exauce toujours. Donc, même s'il ne prie pas, Dieu va l'exaucer. Mais c'est ça, non? Dieu l'exauce toujours. Mais lui, il se retire. À combien plus forte raison? Est-ce que vous, Dieu vous exauce toujours? Entre nous, est-ce que Dieu vous exauce toujours? À combien plus forte raison vous avez besoin de chercher Dieu? Pour connaître, recevoir la révélation qu'il a de ce que vous devez avoir comme forme. Aussi, surtout, sur le plan spirituel. Alléluia. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, dit les Écritures. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que tu ne peux pas te donner toi-même la forme que Dieu t'a réservée. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas toi-même devenir ce que Dieu a imaginé que tu devais devenir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous l'avons lu, n'est-ce pas? Nous l'avons lu. Lorsque nous avons lu dans Romains 12, le verset 2, quelque part il est dit, laissez Dieu vous transformer. Alléluia. J'aime la manière dont c'est dit dans Parole de vie ici. Je sais que dans Louis II, il est dit, soyez transformés, n'est-ce pas? Soyez transformés. Mais ça ne dit pas transformez-vous. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas la même chose. Quand on dit soyez transformés, ça ne veut pas dire transformez-vous. Donc, quand on dit soyez transformés, c'est le résultat. OK? C'est le résultat. Mais dans Parole de vie, les traducteurs préfèrent identifier qui doit être l'acteur de cette transformation-là. Et ils disent laissez Dieu vous transformer. Donc, c'est Dieu qui va opérer cette transformation. C'est Dieu qui fera de toi la personne que tu dois être, conformément à l'image qu'il avait de toi lorsqu'il te concevait. Alléluia. L'argile ne peut pas par elle-même devenir un pot. Ce n'est pas possible. Donc tu ne peux pas de toi-même, avec ton intelligence, avec ton expérience, avec tes relations, avec ta force, parvenir à la forme que Dieu a imaginé de te donner. Tu as besoin que Dieu te prenne là où tu es et qu'il te travaille. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avons chanté Nami Kabie. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'il faut Mikaba. Tu dois te laisser transformer. Parce que ce n'est pas toi qui es l'acteur de cette transformation. C'est Dieu. Alléluia. Mais est-ce que tu ressens que tu as besoin que ce Dieu-là te travaille? Est-ce que tu ressens ces besoins-là? Combien d'entre nous encore éprouvent le besoin de se laisser travailler par Dieu? Vous savez, le grand problème dans l'Église souffre aujourd'hui. L'Église souffre des gens qui sont déjà arrivés, avant même le retour du Seigneur. Ils sont déjà arrivés. Donc, tout ce qui se passe, bon, lui, il considère que ce n'est pas de son niveau. C'est... Les autres là qui viennent d'arriver, ils peuvent aller. Le culte là, nous, on vient seulement quand c'est la prédication. Et ils ont déjà dépassé. Il y a des choses qui ne peuvent plus. Voilà. Beaucoup de gens dans l'église comme ça. Alors, ils sont là, ils sont actifs, mais même la prière, bon, on prie, on avance. Donc, ils ne sentent pas les besoins. Et non, ça, c'est un grand problème. Quand je parle de se laisser transformer ou du besoin d'être transformé, je ne parle pas du besoin des choses de Dieu. Parce que lorsque nous parlons du besoin de Dieu, parfois il y a des confusions. Hein? Même quand on chante, j'ai besoin de toi, je ne peux vivre sans toi. Très souvent, il y a beaucoup de confusion dans les têtes. Quand beaucoup de gens disent, j'ai besoin de Dieu, en réalité, ce qu'il veut dire, j'ai besoin des choses auxquelles je ne peux pas accéder sans l'aide de Dieu. Ce n'est pas la soif de Dieu, mais c'est la soif des choses que seul Dieu peut m'aider à obtenir. Ce n'est pas de ça que je parle. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la soif de Dieu. Donc, de se laisser entre les mains de Dieu. Pas les choses que Dieu amène. Lui-même est Dieu, lui-même. Avec ou sans ces choses-là, lui-même. Est-ce que tu as soif de lui? Un jour, ma petite sœur, ma mère revenait du boulot. Et ma mère avait l'habitude de revenir toujours avec quelque chose. Soit dans un sachet, soit dans un panier. Il y avait toujours quelque chose. Ça peut être une banane, ça peut être un bouton, il y avait toujours quelque chose. Elle revenait jamais le soir, main vide. Alors, ce jour-là, ma petite sœur voit ma mère revenir du boulot. Elle s'écrie. Elle dit, ah, maman, qu'est-ce que tu as amené? Alors, ma mère, ce jour-là, n'avait rien amené. Alors, elle dit, j'ai amené moi. Ma petite sœur était très déçue. Très déçue. Alors elle lui a posé la question. Ah, tu es contente de me voir? Tu es contente de me voir? Ou bien tu es plutôt contente de ce que j'amène? Elle était très embarrassée. Elle a dû revenir sur ses paroles. Elle a dit, non, je suis contente de te voir. Vous voyez? Donc je ne parle pas du besoin des choses de Dieu ou des choses qu'il y a dans le monde et auquel nous voulons accéder avec l'aide de Dieu. Non, je parle du besoin de la révélation de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire le besoin de connaître et de comprendre ce que Dieu veut que je sois. Seigneur, que veux-tu que je sois? À quoi tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu m'as appelé à devenir? Alléluia. À quoi veux-tu que je puisse ressembler? Le psalmiste l'a bien dit dans psaume 42. Écoutez la prière du psalmiste, psaume 42. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je désire toi, mon Dieu. Alléluia. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Et il se demande, quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui, jour et nuit? Je passe mon temps à pleurer. Pas parce qu'on m'a privé de quelque chose, non. Je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt, « Et ton Dieu, que fait-il ?» Alléluia. C'est ça la faim, la soif du psalmiste. C'est dit, je veux avoir la révélation de ce Dieu. Parce qu'autour de moi, les gens me regardent, ils écoutent le Dieu dont je parle et ils regardent tel que je suis. Ils n'ont pas l'impression que je ressemble au Dieu dont je parle. C'est comme si la forme que j'ai ne ressemble pas à ce Dieu-là. Il dit non, 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 non. Je vais aller dans sa présence. Je vais aller dans sa présence. Ce que je désire, c'est lui. Lui. Parce que je sais que là, dans sa présence, je n'en sortirai pas comme je suis entré. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre jusque-là? Gloire au Seigneur. Troisièmement, ce que j'aimerais dire, j'ai parlé de transformation jusque-là, mais vous pouvez vous demander, mais de quoi il s'agit? Quand on dit transformation, transformation, la forme, mais de quoi il s'agit? Qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il dit « Laissez-vous transformer par Dieu » Eh bien, il s'agit tout simplement de passer d'une personne naturelle à une personne spirituelle. C'est ça la transformation. Je répète, être transformé, c'est de passer d'une personne naturelle à une personne surnaturelle ou spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont que naturelles. Ils ne pensent et ne réfléchissent qu'avec l'intelligence humaine et naturelle. Et il y a un problème avec ça, un problème très sérieux. Si vous êtes dans l'église, vous avez passé beaucoup de temps dans l'église et vous ne pensez que de manière naturelle, vous êtes un problème. Il faut que Dieu vous transforme. Parce que par définition, l'église est un corps qui est spirituel. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas être à l'église et la seule chose que vous amenez, c'est votre présence naturelle. Mais du point de vue spirituel, vous êtes absent. Non. L'église est un corps spirituel. Et Dieu nous appelle à être plus que des hommes et des femmes naturels. Pourquoi n'être qu'une personne naturelle ou charnelle est un problème? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci, « Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. » Voilà le premier problème. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans l'Église et vous ne réfléchissez que de manière naturelle, donc si l'Esprit amène des choses dans l'Église, vous n'allez pas les recevoir. Vous allez devenir ennemis des choses de l'Esprit. Donc vous avez besoin d'être une personne spirituel, surnaturel. L'homme naturel, pour lui, ce qui vient de l'Esprit de Dieu est une folie. Et il ne peut pas comprendre cela. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger des choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Oui. La transformation doit nous faire passer des hommes et des femmes naturels à des hommes et des femmes spirituels. D'être une personne charnelle à une personne spirituelle. Alléluia. Une personne naturelle, on le voit par sa manière de prendre ses décisions. Une personne naturelle qui ne réfléchit que de manière humaine. Vous allez voir, remarquer ça par sa façon de prendre ses décisions. Quand il doit prendre une décision, il n'interroge que sa conscience. Si sa conscience lui dit c'est bon, c'est mauvais, il y va. Ça lui suffit. Il pense avoir toutes les réponses dans sa conscience. Une personne naturelle, quand il doit prendre ses décisions, il ne va se référer qu'aux parents, aux amis, à l'Internet. Mais à aucun moment, il va consulter l'Esprit de Dieu. Non, non. Il va tout ramener au naturel. Et il va s'étonner. Quand toi, tu veux manger, même dans un restaurant, tu veux manger, tu dis, ah Seigneur, merci pour ce repas. L'homme naturel, il fallait, ah, même manger dans un restaurant, il faut prier. Voyez comment les gens, vous nous embarrassez là. Donc pour lui, tout, c'est seulement naturel. Il ne comprend pas. Mais l'homme spirituel sait que la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Car telle est la volonté. Telle est à votre égard la volonté de Dieu. Oui. L'homme spirituel sait que je dois rendre grâce. Il ne minimise pas les choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. L'homme naturel, c'est qu'il va se demander, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est ça sa préoccupation. Quand il doit prendre une décision, mais ah, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah non, on veut aller chercher Dieu amoureux. Ah, les gens vont apprendre que je suis allé en retraite. Ah, ils vont me coller un surnom. Donc, il pense, il est trop soucieux de ce que les gens vont penser de lui. Mais à aucun moment il va se poser la question, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Non, ça non. L'homme naturel doit cesser de n'être qu'un homme naturel ou une femme naturelle. Je dois devenir une personne spirituelle. Est-ce que tu peux te le dire à toi-même? Ah, il y en a qui refusent. La transformation, c'est ça. Et vous savez, la transformation va opérer des changements. Par définition, la transformation, c'est un changement. Tu ne peux pas être transformé et puis tu restes la même personne. Non, il y aura des changements. Et je vais vous montrer à quel niveau il y aura changement. Premièrement, lorsque vous serez transformé, ce qui va changer, ce sont vos références. Les références. Alain Moloto a chanté « Jésus, ma référence, le sujet de mon espérance. » Jésus est devenu sa référence. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es devant une situation, tu te poses la question « Qu'est-ce que la Bible en dit ?» Combien se posent cette question? Pendant cette semaine ici, ce qu'on t'a proposé, est-ce que tu t'es posé la question, mais qu'est-ce que la parole de Dieu en dit? C'est ça. Si toi, ton souci, c'est seulement, c'est qu'est-ce que ma copine va dire? Qu'est-ce que papa va dire? Qu'est-ce que... Donc, c'est ça ta référence. Mais lorsque tu seras transformé, tu vas te demander, qu'est-ce que la parole de Dieu en dit? Voilà. Qu'est-ce que la parole de Dieu en dit? Ah, le frère Yvan m'a dit qu'il veut m'épouser. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu en dit? À propos de mon engagement avec un homme, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais quand une personne naturelle va se demander, est-ce qu'il est charmant? Il travaille où? Oui, tu as besoin d'être transformé. Alléluia. Oui, pour devenir une personne spirituelle. Et quand tu es une personne spirituelle, tu vas te demander, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu vas te souvenir que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Est-ce qu'il est dans la lumière comme moi? Vous voyez? Donc, même s'il a le charme de Ronaldo, s'il n'est pas dans la lumière, il a dit, papa, merci, tu es beau, hein? Tu es une créature merveilleuse. C'est dans Psaume 119. Mais tu peux continuer ta route. Alléluia. Ah, la référence a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Ta référence a changé. Tu te demandes qu'est-ce que la Bible en dit. Tu te demandes quelle est la réponse que Dieu m'a donnée à propos de cette situation dans la prière. Est-ce que j'ai reçu une réponse de Dieu dans la prière? Voilà. Les références d'une personne spirituelle. Il ne va pas forcément proclamer ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a... Non. C'est avec la parole de Dieu qu'il va filtrer les choses. Deuxième chose qui va changer, ce sont tes priorités. Tes priorités. C'est-à-dire que tu as beaucoup de choses à faire, tu as beaucoup de choses auxquelles... Ce sont des bonnes choses. Le problème, ce n'est pas les bonnes choses. Souvent, les enfants de Dieu se posent la question, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est mauvais? Moi, quand quelqu'un me pose cette question, je lui rétorque, qu'est-ce qui est prioritaire? Dans tout ce qu'il y a de bon là, qu'est-ce qui est prioritaire? Et l'homme spirituel sait que ce qui est prioritaire, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Voilà. Donc, dans ce que j'ai à faire, ma priorité, ce sont les choses qui font avancer le royaume de Dieu dans ma propre vie, dans la vie de ma famille, dans mon quartier, dans mon université. C'est ça qui est prioritaire. Donc, si je dois sacrifier des choses, les autres là, je vais sacrifier d'abord. Mais le royaume de Dieu là, c'est ça qui passe avant tout. Alléluia. Alléluia. La troisième chose qui va changer, ce sont ses affections. Les affections. Affection. Affection. Alléluia. Pas infection. Affection. Ouais, il faut préciser. Ah non, il y a quoi là, ma infection, il t'a changé. Ah, hein? Affection. Affection. Pas infection. Les affections vont changer. C'est quoi les affections? Les choses auxquelles on est attaché. Les choses qu'on aime. Il aime quoi? Elle aime quoi? Si tu veux savoir s'il est transformé ou si elle est transformée, ou si toi-même tu es transformé, pose-toi la question, qu'est-ce que j'aime le plus? Quelqu'un qui est transformé va aimer l'église du Seigneur. Oui. Si tu es transformé, tu vas aimer les autres chrétiens. Tu vas les aimer. Oui. Tu vas aimer être parmi les autres chrétiens. C'est ça que tu aimes. Oui. Moi, j'ai du mal à me créer des amis ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens aussi. Oui. Vous allez aimer la compagnie des enfants de Dieu. Il aime l'adoration. Celui qui est transformé, il aime l'adoration. Je ne parle pas d'aimer le cantique d'adoration. Non. Je parle d'aimer l'adoration. Il y a une différence. N'est-ce pas? Oui. Il y a des païens qui aiment les cantiques d'adoration. Sans toi, je ne peux vivre. Surtout si c'est avec la voix de cette sœur-là. Non, tu ne peux qu'aimer. Artistiquement, c'est fantastique. Oui. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'adoration. Pas les cantiques d'adoration. Oui. Parce que l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est s'offrir à Dieu. C'est ça l'adoration. N'est-ce pas? Oui. S'offrir à Dieu. Ujito akwamungu. Comme un sacrifice. Totalement. La quatrième chose qui va changer, lorsque vous êtes transformé, ce sont vos craintes. Les choses que vous craignez. Une personne qui est transformée. Une personne qui est transformée ne craint pas les mêmes choses que quelqu'un qui n'est pas transformé. Oui. Quand vous êtes transformé, vous craignez de pécher contre Dieu. Oui. Il y a des gens qui sont courageux devant le péché. Méfiez-vous. Ils sont courageux. Ils ont le sang-froid devant le péché. Attention. Ça, ce n'est pas une personne spirituelle. Une personne spirituelle a peur d'attrister le Saint-Esprit. Il est yuma quand il s'agit du péché. Un vrai yuma. Il tremble. Quand il demande de faire quelque chose qui va déplaire à Dieu, il tremble. Il tremble en la tête mec. Ça, c'est une personne spirituelle. Mais une personne charnelle, il gagne. Dans lui, c'est rien. Ta femme. Ah, raisonner trop. Mais une personne spirituelle, sa conscience va rester chargée. Donc, ta petite naïchave. Et souvent, vous allez voir cette personne, quand il est au milieu de pas, il dit, aïe, cette affaire, ça fait des semaines qu'on a fait ça. Jusqu'aujourd'hui, ça te poursuit. Ah. Bon, Baba, c'est pardon qu'on évolue. Mais une personne qui est spirituelle, il est tourmenté. Parce qu'il craint de pécher contre Dieu. C'est comme lorsque vous êtes amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un. Qui, lorsqu'il est amoureux de quelqu'un, planifie de lui faire mal? Vous avez déjà vu ça? En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, quand je suis tombé amoureux de celle que j'ai épousée, je faisais attention. Oui, je faisais attention. Parce que l'objectif, il n'est qu'au moins. C'est une petite aquaribiche à moi. Non. J'ai bien arrangé. Si je sais que à ta quoi que trajectoire, il y a un groupe pendant la journée, je vais changer mon habillement. Oui, parce que mon objectif, ce n'est pas de déplaire. Mon objectif, c'est de plaire. Hein? Donc, même si je ne crois pas vous aïe foujoua kouna, non. C'est jamais. Et puis, non. Je ne peux pas me permettre. L'homme prudent voit le mal venir de loin et il s'en écarte. Alléluia. Oui. Quelqu'un qui est amoureux de Jésus, il prend ses dispositions. Oui. Il ne veut pas déplaire au Seigneur. Quand tu es transformé, tes affections vont changer. Tes priorités vont changer. Tes références vont changer. Et tes craintes vont changer. Et ton jugement sera éclairé. Oui. Ton discernement sera aiguisé. C'est pourquoi la Bible dit... Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, quand tu es transformé, l'intelligence devient nouveau. On a un akil et amoupia. On a un jugement et amoupia. Et vous saurez ça comment? C'est-à-dire, tous ceux qui cherchent Dieu, ils vont vous consulter. Est-ce que vous avez mis un tafouta à mon ou un tafouta? Essayez de répondre à cette question vous-même. Dans votre cercle d'amis, là, quand quelqu'un cherche à se rapprocher de Dieu, est-ce qu'il te cherche? Est-ce qu'il cherche de l'aide auprès de toi? Donc, si toi, on ne te demande jamais conseil pour les choses spirituelles, tu as besoin de transformation. Ouais. Donc, manquer à coulisses à tout ça, ni bien. Hein? Il y a comme ma vasi, je vais la coulisses. Il y a ma match, il y a ma lare, je vais la coulisses. Mais il y a Mungu, il va couliser les conseils. Non. Un homme spirituel, c'est un homme dont le jugement, en est à cause à l'art, mais qu'on a sagesse. Il y a grave. Même dans la famille, on se dit non. Tu m'as quoi danser à couille? Immatière, tu m'as quoi? Mouchongé, il y a Ming, tu m'as quoi? Jumui famille, ou qu'on a franga, oui, on va quoi qu'on a franga au pal, mon gars, pas né biote. On a l'air au pal, tu as quoi tu es à moi, je t'en ai quitté, allez, pas n'autant. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Si tu es transformé, ton intelligence sera renouvelée. Tu vas devenir une femme sage qui bâtit sa maison. Tu vas devenir un homme sage. Alléluia. Ton jugement sera éclairé. Je prie que le Seigneur te transforme aujourd'hui. Je prie que tu prennes le temps de chercher à connaître la révélation de Dieu pour toi. Je prie que tu cesses de résister à la transformation. Je prie que tu cesses de résister à toute opportunité d'être transformé. Alléluia. Je prie que tu résistes, que tu cesses de résister aux fréquentations où la transformation peut avoir lieu. Alléluia. Que tu commences à fréquenter les endroits où tu peux être transformé. Que tu commences à écouter les choses qui peuvent te transformer. Que tu commences à écouter une musique qui peut te transformer. Que tu commences à fréquenter des hommes et des femmes par lesquels Dieu peut passer pour te changer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Bien-aimés, nous sommes en train de parler de transformation, mais vous allez comprendre que c'est un processus, c'est un partenariat entre toi et Dieu. Et voici le deal. La part de Dieu, c'est de te transformer. Toi, ta part, c'est de t'offrir. Si tu n'es pas prêt à t'offrir en sacrifice, en réalité, tu empêches Dieu de te changer. Dieu n'est pas un dictateur. Et je ne sais pas quel est ce sacrifice que tu dois faire. À quoi ça ressemble pour toi de t'offrir à Dieu? Ça peut signifier de cesser, d'arrêter avec une fréquentation. Ça peut signifier d'utiliser cet argent-là pour aller chercher Dieu à Bukavu avec les autres. Peu importe ce que c'est, t'offrir, offre-toi. Tu ne les regretteras jamais. Offre-toi au Seigneur et tu ne les regretteras jamais. Ujito ekwa Mungu. Accepte que Dieu te change. Est-ce que tu peux fermer les yeux et commencer à prier? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, « Seigneur, je ne suis pas satisfait de ce que je suis. Ce n'est pas ce que tu as conçu pour moi. Ce que je vis maintenant, ce n'est pas ce que tu m'as destiné. Ce n'est pas ça. Je connais ta grandeur. J'ai entendu parler de ta grandeur, de ta puissance. J'ai vu les gens que tu as changés. Et je sais que là où je suis, ce n'est pas ce que tu m'as destiné. Tu m'as destiné à quelque chose de différent, de plus grand. Les choses avec lesquelles je lutte maintenant, je ne devrais pas lutter avec ces choses à ce stade de ma vie. Après toutes ces années de ma marche avec toi, je ne devais pas vivre ces choses. J'ai besoin d'être transformé. Je ne vois toujours pas clair, mon jugement est flou. Je n'arrive pas à discerner ton temps, tes voies. J'ai besoin de voir clair. Transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Transforme-moi. J'ai des mauvaises références. Jusqu'ici, j'ai pris des décisions en me basant sur de mauvaises références. Mes priorités ne sont pas les mêmes que les tiennes. Je n'ai pas cet amour, cette flamme, cette envie, cette passion, cette affection pour les choses du ciel. J'ai besoin d'être transformé. Je ne veux pas que ma vie reste la même. Alléluia. Brise-moi et enlève ce qui ne va pas. Tout ce qui t'empêche d'opérer cette transformation dans ma vie. Je veux briller pour toi. Je veux que les hommes, lorsqu'ils me regardent, les femmes, lorsqu'ils me regardent, qu'ils disent véritablement, Jésus est passé par cette femme. Jésus est passé par ici. Je veux briller pour toi, Jésus. Je veux que lorsque les gens regardent ce que je suis devenu, qu'ils disent véritablement, le Seigneur est vivant. Dieu agit. Dieu agit. Je veux être un témoignage vivant. Je veux être ce témoignage vivant. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et nous prions, Seigneur, que par ton esprit, Que personne ne se prive de ta grâce, qui est toujours disponible. Elle est disponible maintenant. Elle sera encore disponible dans tous les rendez-vous que nous sommes en train de prendre avec toi. Seigneur, nous savons que tu es toujours fidèle à tes rendez-vous. Père, que personne ne se prive de ta grâce. Que personne ne se prive de ta grâce. Que lorsque tu visites ton peuple, Seigneur, que personne ne rate ta visitation. Et que, Seigneur, d'ici quelques jours, quelques semaines, ce ministère, cette paroisse ne soit plus reconnaissable à cause de ce que tu auras fait dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur plus que ça? Pour cette parole que nous venons d'écouter cet après-midi.